Geneviève Naudin. Bonjour chers auditeurs. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'Église en marche, je vais vous parler d'un écrivain de livres pour la jeunesse, Anne Riollet. Bonjour Anne.
Bonjour Geneviève.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle donc Anne Riollet, je suis enseignante au lycée Notre-Dame en histoire-géographie et depuis une quinzaine d'années, je publie des romans pour la jeunesse, plutôt des romans historiques.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ?
Alors, j'ai toujours eu un grand désir d'écrire, mais comme beaucoup de jeunes, j'écrivais des bouts de chapitres, des petits poèmes qui finissaient dans les fonds de tiroir et je ne menais pas mes projets à bout. Et j'ai eu l'occasion, alors que j'étais déjà mère de famille, que j'avais mes quatre jeunes enfants, d'avoir une proposition un peu inespérée, à savoir que mes beaux-parents et mes parents m'ont proposé de prendre mes enfants 15 jours en vacances. Et je me suis dit que 15 jours de liberté avaient besoin, c'était l'opportunité de les occuper à l'écriture. Et je me suis lancée comme ça.
Donc ça a toujours été un projet quand même, il fallait trouver le temps.
Ça a toujours été un projet, mais qui a été enfoui pendant ma période étudiante, pendant mes débuts familiaux, on va dire, et qui est réapparu vers 2008.
D'accord. Donc les enfants étaient déjà...
Les enfants étaient petits. Mais on trouve, de manière un peu paradoxale, on trouve presque plus de temps à écrire lorsque les enfants sont petits que lorsqu'ils sont plus grands.
Ah oui, ils accaparent un peu plus quand ils sont plus grands, en tant qu'ados, à discuter.
Ils accaparent à tout moment, oui. Ils peuvent accaparer à n'importe quel moment, alors que les petits, pendant les siestes, pendant les soirées, on trouve du temps pour écrire.
Alors pourquoi le choix d'écrire pour la jeunesse ?
Bon, je pense que ça vient du fait que j'enseigne depuis plus de 25 ans maintenant, que cette tranche d'âge de 12-18 m'est quand même très familière, que j'ai toujours eu énormément d'intérêt pour la littérature jeunesse. Même à l'âge de 30 ans, il m'arrivait de continuer à acheter des livres jeunesse chez les bouquinistes pour terminer des collections. Et puis également, du fait de mon métier d'enseignante, qui est quand même porté sur une certaine transmission, j'aime aussi vulgariser des périodes historiques et de manière un petit peu, enfin pas ludique, mais en tout cas en les présentant de manière romancée pour plonger mon jeune lecteur dans une atmosphère historique. Et faire passer peut-être la pilule des dates, de certains aspects un peu austères, plus facilement.
Oui, et puis c'est des souvenirs après que les jeunes peuvent exploiter quand ils vont avoir, par exemple, en histoire géo, un moment de telle période ou telle période de l'histoire qu'ils vont détailler. Ah ben oui, ça me rappelle tel roman, etc., que j'ai pu lire, voilà.
Pourquoi pas ?
On peut le penser comme ça. Oui, très bien. Pouvez-vous me parler de vos différents ouvrages ?
Oui, alors j'en ai publié deux aux éditions Teki, qui étaient plutôt des petits romans policiers où je faisais intervenir des jeunes anges qui venaient au secours des humains, qui venaient aider les humains à se dépêtrer de leurs difficultés quotidiennes. Et puis, ces deux ouvrages s'appelaient « Sauver Garance » et « La lettre de Patmos ». Je suis ensuite passée aux éditions Artege et là, je me suis penchée sur le totalitarisme soviétique. Alors, ça paraît très austère pour de jeunes ados. Mais alors, d'abord, là, je m'adressais à une tranche d'âge un peu supérieure. On était plutôt sur les 12-15 ans. Donc, j'ai lu énormément de témoignages de rescapés des goulags. Et j'ai toujours été fascinée par la résilience de ces personnes qui sortaient de 10 années d'enfer et qui arrivaient à se reconstruire. Et donc, mes deux ouvrages, Evgenia, les îles Valaam, et Evgenia, les îles Solovki, sont en partie un hommage à Evgenia Gainsbourg, qui est un professeur de littérature qui a été emprisonné pendant des années et qui a écrit l'un des plus beaux témoignages
De ce qu'il
de
vit,
rescapé.
oui, de
Voilà.
rescapé, oui.
Et puis enfin, je fonctionne beaucoup par pair. Et donc là, je viens de commencer, donc de publier en octobre Juliette et la Grande Guerre, un ruban dans les tranchées. C'est le premier tome. Et là, je me suis penchée sur la Première Guerre mondiale, mais sous deux angles bien particuliers. D'abord, les voitures, enfin, un aspect moins connu de la vie de Marie Curie, à savoir la mise en place de petites curies, qui étaient les voitures radiologiques qu'elle avait mises en place pour permettre aux chirurgiens d'hôpitaux de campagne de mieux localiser et de mieux opérer les soldats. Et l'autre prisme, l'autre angle qui m'intéressait, c'était l'amnésie traumatique, les soldats qui, à la suite de combats extrêmement éprouvants, étaient atteints de ce qu'on appelait à l'époque l'obusite, c'est-à-dire des tremblements irrépressibles dès qu'ils entendaient des sons un peu violents, et puis surtout d'une perte de mémoire, et le manque de reconnaissance dont ils souffraient, puisque beaucoup d'entre eux étaient considérés comme des simulateurs, puisqu'à l'époque, toute la psychiatrie autour des traumatismes de guerre était encore assez balbutiement.
Oui, tout à fait, oui. Et donc, là, le premier tome de Juliette est déjà sorti.
Oui, il
Oui,
vient de sortir.
vient de sortir. Vous savez ce qu'il en est au niveau de la publication, enfin, la publication, oui, mais de la vente, comment ça se passe?
Alors, ça se passe plutôt bien. J'ai fait de nombreuses dédicaces. Donc, le Salon du livre d'histoire de Versailles est toujours un grand moment parce que là, on est vraiment dans notre cible de lecteurs et on fait de très très belles rencontres.
Oui.
Évidemment, je dédicace aussi à l'Esperluette, qui est notre librairie locale à
Chasserelle.
Chartres. Et puis, la mairie du 8e arrondissement de Paris m'a sollicité pour le salon du livre de la famille le 10 décembre. Donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de monde.
D'accord. Et en ce qui concerne le deuxième ouvrage, vous pensez le publier pour quand sur Juliette?
Il est prévu pour avril 2023, donc je commence à m'affoler un petit peu, puisqu'il est pour l'instant écrit à peu près pour la moitié. Donc je suis un petit peu, j'ai beau être professeur, je suis aussi une mauvaise élève et je procrastine. Et là, je sens l'urgence me talonner et donc je me mets sérieusement à l'écriture, mais aussi avec beaucoup de plaisir.
Oui, mais alors vous travaillez beaucoup pour pouvoir faire un roman qui soit quand même un roman, on m'avait dit, un roman historique. Donc il faut avoir des bases qui soient vraies, qui soient reconnues, etc. Donc ça doit demander énormément de travail.
Alors, je commence toujours par la recherche documentaire, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'amasse beaucoup de documentation, je vais fouiller sur Internet, je lis des ouvrages, je me fais des petits plans. Et ensuite, j'essaye, dans la mesure du possible, de fermer tout ça et d'écrire.
Oui.
Et puis j'y reviens quand j'ai un doute pour pas ne laisser d'inexactitude dans mon ouvrage. Mais l'objectif, c'est de ne pas écrire avec la documentation sous les yeux parce que on a le risque de faire un ouvrage finalement ennuyeux, pédagogique. Enfin, non pas que ce terme soit péjoratif, mais là, c'est une fiction et avant tout, il faut emporter le lecteur dans l'histoire du début à la fin. Moi, le plus beau, enfin, ce que je souhaite, c'est que mon lecteur prenne son ouvrage et puis qu'il lise sous sa couette jusqu'à ce qu'il ait fini,
Oui,
quoi que lui en disent ses
ses parents.
parents. Voilà, c'est l'emporter et l'envelopper dans une bulle et le faire sortir de la réalité pendant quelques heures.
Oui, très beau témoignage. Alors, en quoi vos ouvrages reflètent-ils votre identité chrétienne?
Alors, j'essaye en fait de distiller ma foi chrétienne peut-être de manière un peu impressionniste, c'est-à-dire que Je ne fais pas des pages de catéchisme dans mes ouvrages, c'est évidemment pas le but, oui. Mais j'essaye d'avoir des belles figures chrétiennes, qui sont pas nécessairement, qui sont souvent des personnages secondaires. J'essaye de montrer, alors c'est très visible dans Evgenia, puisqu'en fait la jeune Evgenia est une chrétienne orthodoxe dans une Union soviétique qui est devenue complètement athée et où les croyants sont persécutés. Et donc je montre comment sa foi lui est une grande source de réconfort lorsqu'elle est envoyée dans un orphelinat, lorsque ses parents sont éliminés par le régime. Pour Juliette, j'ai cette emprise chrétienne et visible de manière discrète aussi. Juliette, c'est une jeune fille de la bonne bourgeoisie française. Elle fait ses études au couvent des oiseaux. Et donc, il y a un personnage assez attachant que j'aime beaucoup, qui est une sœur enseignante, qui a des liens d'amitié assez privilégiés avec Juliette et qui sait l'aiguiller quand elle est un petit peu désorientée. Parallèlement, son ami Émile, qui lui s'est engagé précocement dans le conflit, va être soutenu par l'aumônier de son bataillon. Et lorsque Émile passera en jugement, l'aumônier produira un beau témoignage pour le défendre. Voilà. Et donc aussi, l'identité chrétienne, elle transparaît par la vertu de l'espérance. Ces périodes, évidemment, de le totalitarisme soviétique, la Première Guerre mondiale, c'est des périodes très sombres. Et il y a plein de petites lumières qui les jalonnent. Et souvent, elles sont liées à l'espérance chrétienne.
Oui. En fait, vos ouvrages transpirent de cette identité chrétienne. Elles ne le formulent pas directement, mais ça transpire. Voilà. Et ça permet de toucher un très grand public. Alors, quels sont vos projets ?
Alors, mes projets, c'est d'arriver à sortir ce second tome dans les temps. Donc, puisque vous savez qu'après avoir écrit un livre, il y a quand même une petite période de relecture. Donc, j'ai même commencé à envoyer le second tome, alors qu'il est loin d'être fini, à mon éditrice pour qu'elle commence à faire les corrections, oui. Et que ça me donne un petit peu plus de temps pour écrire la suite. J'en suis réduite à des expédients. Donc, sortir ce tome dans les temps. Et puis ensuite, on verra bien. Peut-être prendre une pause parce que je ne suis pas non plus un forçat de l'écriture. Je n'écris pas tous les jours. D'abord, j'ai une famille. Ensuite, j'ai un métier et d'autres occupations. Mais après, pourquoi pas reprendre des textes, des nouvelles plutôt pour un public adulte que j'ai déjà écrites, mais qui ont un besoin d'un bon remaniement, et essayer de les envoyer à une maison d'édition. Et nous verrons bien.
Un bien très beau projet. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour ce moment partagé. Eh bien, une très bonne continuation dans vos projets. Et puis, pourquoi pas, lors d'une autre dédicace ou autre livre qui va surgir, qui va réapparaître, pourquoi pas refaire une petite émission.
Merci beaucoup de m'avoir accueillie.
Au revoir, chers auditeurs.